Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Au menu du débat de ce soir, les relations entre la France et la Russie. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par plusieurs candidats de la primaire de la droite, il est une question qui se fait vive ces jours-ci en France. Faut-il ou non se rapprocher de Moscou ? Une question ravivée par la victoire de Donald Trump, partisan affiché d'un réchauffement des relations entre les États-Unis et la Russie. Une question qui divise toutefois profondément en France, en tout cas. Rappelons-nous, il y a un mois, Vladimir Poutine a annulé une visite à Paris après des propos trop sévères, selon lui, de François Hollande sur le rôle de la Russie en Syrie.
Avec la Russie, la France a un désaccord majeur sur la Syrie. Le veto russe à la résolution française au Conseil de sécurité a empêché la cessation des bombardements et la proclamation de la trêve. Je considère que le dialogue est nécessaire, mais il doit être ferme et franc, sinon il n'a pas sa place.
Alors, à 5 mois de la présidentielle, une question. La France doit-elle dialoguer fermement ou se rapprocher de la Russie? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, deux invités. Nicolas Tinzer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po, président du CERAP, le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, et par ailleurs directeur de la revue Le Banquet. Cyril Brett, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, co-auteur du site Eurasia Prospective. Alors Nicolas Tinzer, peut-être pour commencer cette émission, une réaction à l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'elle est, en plus d'être beaucoup de choses, une forme de victoire pour la Russie ?
Elle a été saluée de manière parfaitement clair par la Russie de Poutine. Elle a été très largement favorisée par une série d'actions, y compris le hacking d'un certain nombre de sites internet. Et on sait que beaucoup de conseillers de Donald Trump sont des proches de Vladimir Poutine et du Kremlin. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la Russie a gagné. Et c'était la première victoire finalement de la semaine après sa victoire en Bulgarie et en Moldavie avec l'élection de président pro-russe. Et ça, je crois qu'il n'y a strictement aucun doute là-dessus.
Donc pour vous, il y a effectivement une forme de basculement. Cyril Brett, vous êtes d'accord ? Vous y avez vu dans cette victoire de Donald Trump une forme de retour en force de la Russie ?
C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Bien sûr, les affinités entre les entourages, entre les personnalités, entre les modes de communication sont très importants, mais les affinités ne font pas un retournement d'alliance. Le nouveau président, donc le président élu qui sera bientôt président en janvier, a des politiques à mener et son slogan c'est « America first ». S'il veut défendre véritablement les intérêts américains à travers le monde, il ne pourra pas converger ni en Syrie, ni sur l'OTAN, ni dans la gestion des différentes crises sécuritaires avec la Russie. Il y aura peut-être un réchauffement superficiel, peut-être une levée partielle des sanctions américaines. Ça coûte pas cher pour les États-Unis qui n'en subissent pas vraiment.
Coûte moins cher aux États-Unis qu'en France, peut-être.
Exactement. Mais sur le fond des dossiers, notamment sur l'animation des réseaux d'alliances en Europe et au Moyen-Orient, le rapprochement est aujourd'hui inenvisageable. Les intérêts sont trop antagonistes.
Alors, on va en venir au cœur de notre sujet, mais je voudrais d'abord, avant de vous demander si vous pensez qu'il faut que la France se rapproche de la Russie, je voudrais qu'on définisse ce que sont aujourd'hui les relations entre la France et la Russie. Nicolas Tinzer, pour vous, elles sont comment ? Bonnes, très mauvaises, critiques ?
Elles sont mauvaises, et pour de bonnes raisons. Tout simplement parce qu'en raison de la politique d'agression de la Russie, que ce soit en Syrie, avec des crimes de guerre commis directement par la Russie, c'est pas uniquement des crimes commis par Assad, mais directement par la Russie, avec l'agression et l'invasion de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, avec également la guerre de l'information qui est menée de la part de la Russie contre l'Europe, puisqu'elle vise à démembrer en quelque sorte l'Europe de diverses manières, on ne voit pas comment les relations pourraient être bonnes. Et j'allais dire, heureusement qu'elles ne le sont pas bonnes.
Cyril Brett, là-dessus
je souscris, elles sont à un point bas aussi sur d'autres plans, et notamment sur le plan économique. La décennie 2000 a été une décennie de croissance modérée mais réelle, des investissements directs français en Russie, des importations d'hydrocarbures russes en France, qui a vu une croissance soutenue des échanges atteignant un point haut au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie à environ 17 milliards d'euros. C'est une contraction qui est plus que proportionnelle à la contraction de l'activité en Russie. Et aujourd'hui, sur le plan politique, diplomatique, sécuritaire, mais aussi sur le plan financier et économique, le point bas est atteint. Il a eu un symbole très fort dans l'annulation de la commande des BPC. de la livraison des BPC Mistral, les bateaux de projection et de commandement Mistral, où, au nom de ses intérêts supérieurs et de sa conception du système de sécurité internationale, la France a renoncé à livrer un équipement stratégique au prix d'un milliard d'euros au nom de ses intérêts stratégiques et de la solidarité européenne, notamment avec les Polonais.
Alors, je voudrais qu'on écoute désormais François Fillon, ancien Premier ministre, rappelons-le, candidat à la primaire de la droite et du centre. Il expliquait, c'était le week-end dernier, chez nos confrères de France Inter, pourquoi il faut, selon lui, se rapprocher de la Russie d'aujourd'hui.
La question, c'est, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. C'est un pays dangereux parce que c'est un pays instable. C'est un pays qui a jamais connu la démocratie. Traiter ce pays comme si c'était le Luxembourg ou le Panama, c'est juste une énorme bêtise, voilà. Et je pense qu'en plus, il y a un axe de gravité de l'économie mondiale qui se déplace vers l'Asie, que c'est pas indispensable de pousser vers l'Asie une Russie qui est profondément européenne.
Alors, pays le plus grand du monde, pays instable, pays en crise économique, il l'a dit aussi, pas dans cet extrait, mais c'était aussi l'une des parties de son développement. Nicolas Tinzer, est-ce qu'il faut se rapprocher au nom de ces différentes raisons de la Russie d'aujourd'hui ?
Non, je pense qu'il ne faut pas le faire. D'abord parce qu'à certains moments, quand même, le politique est plus important que l'économique, malgré tout. Et que derrière, devant les atteintes aux droits de l'homme, d'ailleurs en Russie elle-même, en raison des crimes commis par la Russie, de sa politique d'agression, il y a un moment où on peut dire on ne peut pas aider la Russie, on ne peut pas négocier avec la Russie. On ne peut pas discuter sérieusement avec un pays qui, chaque fois qu'il a une occasion d'avancer ses pions, finalement, trahit en quelque sorte son interlocuteur. Il n'y a pas une politique de confiance. Deuxièmement, sur le plan même économique, je ne suis pas du tout sûr que la Russie soit un bon cheval. Je veux dire, il y a une grande banque française qui a investi en Russie, croyant que c'était une sorte d'Eldorado et qui approvisionnait plus de 800 millions d'euros de pertes. Donc je pense que là aussi, il y a une sorte de miroir aux alouettes de la Russie et que je crois que toutes les idées finalement de rapprochement en fait cachent un certain nombre d'intérêts d'une autre nature.
Quand certains diplomates, certains militaires disent que quand on a un pays instable à côté, il faut plutôt chercher une consolidation du lien qu'autre chose. Vous ne souscrivez pas.
Non, je pense qu'il faut être totalement ferme et clair avec la Russie. Alors, il ne faut pas, bien sûr, briser les canaux de discussion. Bien sûr, personne ne le dit. On ne va pas arrêter les relations diplomatiques avec la Russie, bien sûr. Mais je pense que la politique russe suppose qu'il y ait une réaction cohérente, commune de l'Union européenne et des États-Unis et du Canada et des grandes puissances qui soient parfaitement claires. C'est le seul langage à terme que la Russie puisse comprendre.
Alors Cyril Brett, Nicolas Tinzer vient de nous dire il y a des moments où la politique doit être au-dessus de l'économique. Est-ce que c'est la même vision que vous avez ?
Bon, les intérêts économiques de la France en ce moment en Russie ne sont plus défendus. Ils n'obtiennent ni la garantie des tribunaux, ni la garantie des autorités publiques. La Russie est engagée dans une logique de cavalier seul, aussi bien au niveau militaire, on voit en Syrie, que d'un point de vue économique. La politique de la terre brûlée, Vladimir Poutine est en train d'accepter pour son économie nationale et donc sa population une deuxième année de contraction radicale du PIB. Il est en train d'appauvrir, en fait, sa population au nom de ses impératifs de sécurité internationale. De sorte que, avec la Russie, l'attitude de la France, c'est celle d'une main tendue qui ne reçoit aucune contrepartie. Sur le terrain militaire, en Syrie, on se souvient qu'en novembre dernier, François Hollande avait évoqué la possibilité d'une coopération. Aujourd'hui, sur le terrain, d'un point de vue tactique, du point de vue du partage du renseignement tactique, elle est au point mort aussi.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que la question ne se pose pas vraiment, parce qu'en fait, la Russie ne veut pas coopérer plus avec la France.
Je vous dis ça, et je vous dis en plus que pour pouvoir reprendre un dialogue qui est inévitable avec la Russie, la géographie est obstinée. Il va falloir réunir des conditions dont nous sommes loin de savoir si elles vont pouvoir l'être. La première des conditions, c'est effectivement le rapport de force, puisque la Russie est engagée dans une politique de rapport de force tous azimuts, de sorte que la seule option viable actuellement pour la France à l'égard de la Russie, c'est sur le terrain des sanctions économiques, militer pour la reconduction des sanctions fin janvier. C'est la seule façon d'être entendue à Moscou. Et sur le terrain militaire, de montrer que la France sera intransigeante sur le choix des cibles en Syrie et sur l'animation de ses réseaux d'alliances. La France ne gagnera rien en Russie à se renier. Alors, sur le plan des valeurs, sans doute, mais je réfléchis en termes d'intérêt, moi. sur le plan de ses intérêts, la France ne gagne rien. Et la France n'est
audible. Parce que c'est aussi une question, en fait, dans cette question, quel lien doit avoir la France avec la Russie? Il y a aussi la question de la nature, aujourd'hui, de la relation diplomatique. Est-ce qu'on met l'éthique au-dessus? Est-ce qu'on se pose la question de l'intérêt de la France? Là-dessus, pour vous, Nicolas Danzer?
Voilà, je crois que les deux sont totalement liés. Moi, ça fait plus de 10 ans que je mets en garde, je dirais, contre l'attitude de la Russie, tout simplement parce que j'y enseignais pendant très longtemps, très souvent, et que j'ai vu, chaque fois que j'y allais, dans les années 2000, la situation des droits de l'homme se dégradait de plus en plus. On connaît le nombre de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme assassinés. Et pour moi, un pays qui commet de tels crimes à l'égard de ses propres citoyens, c'est un pays qui a nécessairement une propension à devenir agressif et criminel à l'extérieur. Donc je crois que les intérêts et les valeurs et la stratégie, c'est quelque chose qui est complètement lié. Deuxièmement, en termes strictement d'intérêts, on dit oui, la grande coalition, Cyril Bray en a parlé tout à l'heure, mais je crois que le vrai sujet, c'est qu'on sait très bien que la Russie ne frappe absolument pas les mêmes cibles que nous. Je veux dire, il n'attaque absolument pas Daesh. La Russie aide uniquement un régime criminel, celui d'Assad, à se maintenir au pouvoir en frappant surtout les rebelles, et notamment les rebelles modérés, au point d'ailleurs que certains rebelles d'ailleurs deviennent de plus en plus extrémistes, précisément parce que ils ne voient plus
pas d'intérêt aucun...
voilà,
pas d'intérêt,
donc je veux dire, il y a plus d'intérêt commun.
Cyril Brett.
Une réflexion sur la façon de poser la question. C'est pas tellement un arbitrage entre les intérêts matériels et les valeurs. Avec la Russie, si on fait à la fois comme Fillon, comme Le Pen et comme Mélenchon, on promeut Vladimir Poutine et son administration au rang d'homme politique français. On fait comme si on avait à débattre avec lui sur l'agenda intérieur. On n'a pas à débattre de la nature du régime, on n'a pas à se prononcer sur la nature du régime à l'intérieur même du débat politique français. La grande force actuelle de la propagande poutinienne, c'est de faire que Vladimir Poutine devienne un homme politique local en France, en Hongrie, en Moldavie, en Roumanie, partout. On a, je pense, pour aborder cette question, à garder en tête quels sont les intérêts français. Et on voit très bien, ça a été très bien rappelé par Nicolas Tenzer, les intérêts sécuritaires français ne sont pas défendus par la Russie parce que ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes réseaux. Nous n'avons pas non plus les mêmes intérêts économiques. En revanche, je pense que la façon d'éviter que la Russie ne continue dans sa spirale de cavalier seul, c'est de manier un équilibre entre le rapport de force et des coopérations qui sont limitées, circonscrites, notamment en ce qui va concerner la grande discussion, c'est-à-dire la question des sanctions. Je pense qu'il faut que la France trouve à l'intérieur de l'Europe, une voie de conditionnalité de levée des sanctions pour amener la Russie à récipiscence et à infléchir sa politique internationale.
Nicolas Tanzar, sur ces sanctions,
sur les sanctions, moi,
donc rappelons-le, qui ont été adoptées dans la foulée de l'annexion de la Crimée.
Oui, voilà, je pense qu'il y a d'ailleurs il y a deux types de sanctions. Il y a des sanctions qui sont liées essentiellement à la Crimée, et puis il y a des sanctions qui sont liées à la guerre dans le Donbass et à la non-application, essentiellement d'ailleurs due à la Russie, il faut quand même le rappeler, des accords de Minsk. Ce sont deux types de sanctions. Pour moi, je pense qu'il faut avoir une politique totalement ferme à l'égard des sanctions, dans la mesure où la Russie ne joue pas un jeu coopératif. Si la Russie jouait un jeu coopératif et qu'il y avait des perspectives d'avancer, moi je serais tout à fait favorable à ce que petit à petit on lève les sanctions les unes après les autres. Or, aujourd'hui, il est parfaitement clair que si on lève les sanctions, même partiellement, la Russie ne fera aucune
avancée. Il n'y a pas de contrepartie,
avancée.
C'est ce que disait...
Il n'y a pas de contrepartie.
Et c'est donné. Et c'est l'iranienne, en fait. Il faut tenir le rapport de force des sanctions avec une perspective crédible, c'est-à-dire non idéologique, en fait, de levier graduel, y compris dans le long terme.
Donc le discours de fermeté dont parlait finalement tout à l'heure François Hollande.
Voilà, mais alors moi je suis là-dessus, je pense qu'il y a aussi un risque de mauvaise interprétation de ce que fait la Russie. La Russie aujourd'hui, et je pense qu'elle risque d'être, on verra ce que donnera l'administration Trump, elle risque d'être confortée malgré tout par l'Amérique, elle a une politique de plus en plus affirmative et ne cherche même plus à préserver les apparences. En Syrie, elle commet des crimes de guerre au vu et au su de tous. Elle vient hier de remettre en cause sa signature sur le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Le président Poutine, il y a quelques semaines ou un mois, a déclaré clairement « Mais moi, de toute manière, je suis intervenu dans le Donbass pour défendre les russophones ». Donc la Russie, tout simplement, vise de manière parfaitement claire à chambouler l'ordre international et à proposer un autre discours contre le discours, disons, des droits de l'homme, des libéraux. Un discours qui est discours.
Si ce discours est si agressif, comment est-ce qu'on explique le succès de ce discours? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lobby russe aujourd'hui qui travaille? Est-ce que c'est la perte d'influence des États-Unis? Est-ce que c'est une forme de rejet de l'OTAN, Cyril Brett?
Il y a trois questions. Pourquoi le succès à l'intérieur de la Russie? Tout simplement parce que la population a soif de revanche et de prestige.
Non, alors moi je parlais plutôt du succès en France.
C'est
parce
la deuxième.
Y a beaucoup...
C'est le deuxième. Effectivement, il y a un facteur historique qui joue. La solidarité franco-russe est un phénomène historique qui a plusieurs décennies d'existence. Et il y a effectivement des initiatives manifestes de soft power de la Russie en France. La multiplication des médias russes possédés par l'État en langue française. La multiplication des think tanks qui financent, bien évidemment, des études. Et il ne s'agit pas là, je ne vous parle pas de romans de John le Carré. Il s'agit de personnes que vous pouvez rencontrer tous les jours, qui sont des professionnels tout à fait respectables, mais qui font valoir, qui font ce que la France ne fait pas, sauf RFI, en Russie, puisque nous avons abandonné. Nous avons complètement abandonné la présence française en Russie pour nous contracter
donc il n'y a pas de contre-discours, c'est ce que vous dites?
Ben oui.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a une guerre de l'information qui passe effectivement par un financement à grande échelle en France et ailleurs, bien sûr, d'un certain nombre de médias, mais pas seulement RT et Sputnik. Mais il y a un certain nombre de médias français, de think tanks français, qui sont très largement, ça a été démontré dans un livre récent de Nicolas Hénin sur la France russe, qui sont très largement financés, aidé, soutenu par la Russie. Ça, c'est, je crois, la première chose, et qui propage un discours parfois dur, parfois plus modéré d'apparence, en faveur du Kremlin. Deuxièmement...
On finance aussi des partis politiques.
Il y a effectivement le fameux prêt au Front National, mais il y a beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur le Front National. On a quand même un grand nombre d'hommes politiques français, de droite et voire de gauche, qui sont très sensibles, pour diverses raisons, à cette propagande. Mais deuxièmement, il y a aussi toute une sorte de récit qui est le récit qui convient à la Russie, qui est diffusé. Un récit qui est le récit de la fameuse, finalement, humiliation russe, qui est totalement faux. On dit, oui, la Russie a été humiliée, il faut les comprendre, etc. Deuxièmement, il y a le discours du pseudo-réalisme. On voit quelqu'un comme Védrine tomber, en quelque sorte, dans ce panneau en disant, mais il faut être réaliste, les droits de l'homme, tout ça, ça n'a pas d'importance. Il faut
c'est ce que dit aussi François Fillon, Nicolas Sarkozy.
Il y a toute cette tendance-là. Et puis, il y a un troisième discours aussi, qui est le discours, mais finalement, c'est le discours culturaliste qu'on entend parfois pour la Chine, pour les pays arabes. C'est, mais de toute manière, la Russie, c'est un pays de serfs. C'est un pays qui ne sera jamais prêt pour la démocratie. Et c'est un discours totalement faux et qui méprise les défenseurs des droits de l'homme.
Et certains rappellent effectivement que la Russie n'a jamais eu de président élu démocratique.
Une fois qu'on fait le constat de cette dérive des continents sur le point des valeurs, qui à mon avis est incontestable, la divergence s'accroît très très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que est-ce qu'on ferme la porte complètement à la Russie, ou est-ce qu'on essaye de la raccrocher et de trouver des communautés d'intérêts limitées en matière d'hydrocarbures, en matière d'échanges financiers? Parce que nous pouvons tenir, la France peut tenir la Russie par les intérêts financiers. La Russie, l'économie russe, est en état de sous-développement du système bancaire et du système financier. Un troc en la matière pourra être, à mon avis, une façon de le raccrocher. Une autre façon de le raccrocher, bien évidemment, c'est les transferts de technologie. Il faut encore une fois un donnant-donnant de ce point de vue-là, parce que je pense que le discours des valeurs auxquelles je ne peux qu'être sensible, c'est évident, conduit en fait à un isolement de la Russie à l'égard de l'Europe qui, moi, me semble plus inquiétant que les efforts que nous pouvons faire, que les sociétés civiles, par exemple, peuvent faire à l'égard de la société civile russe. Parce que Poutine n'est pas la Russie n'est pas Moscou et Saint-Pétersbourg, Nicolas Tenzer connaît très bien.
Et Poutine ne sera pas toujours en Russie. Juste en quelques secondes, vous êtes d'accord, il faut quand même essayer de les raccrocher, ou pour vous, les valeurs, on a tout dépassé?
Non, mais je pense qu'il y a surtout un autre problème, c'est que si le Kremlin d'aujourd'hui était sensible à un discours rationnel, ça irait.
C'est la
grande
question.
Que le vrai problème, c'est que Poutine fait le malheur de son peuple et finalement n'en a cure.
On en restera là. Merci beaucoup à vous deux, à Nicolas Tinzer, professeur associé à Sciences Po, Cyril Brettre, maître de conférence à Sciences Po Paris. Merci également à Florence Pons, à Tiffaine Mandat. On se retrouve demain pour un nouveau débat sur RFI.